Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs les abbés, mes bien chers frères, à quelques jours de Noël, l'Église s'associe à nos ultimes préparatifs de la fête par le truchement des textes liturgiques. Il récapitule tout l'enseignement de l'Avent et nous offre l'ultime conseil de l'Église pour préparer Noël. Ainsi n'est-il pas étonnant de voir la parole donnée à saint Jean-Baptiste, puisqu'il fait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est ainsi dans une posture idéale pour nous donner ce dernier conseil. Mais l'Église, en plus de donner la parole à saint Jean-Baptiste, nous fait lire un texte de saint Paul, un texte sur le jugement. Si nous voulons percer l'intention de l'Église aujourd'hui, ce qu'elle veut nous dire, il faut associer ces deux lectures. Quel peut être le lien entre un texte où le jugement est condamné et la préparation de la venue du Sauveur? Il paraîtrait surprenant que l'Église ait simplement voulu nous mettre en garde contre le jugement téméraire. En effet, préparer Noël semble plus important que de fustiger un simple défaut. L'un des maîtres mots de l'enseignement de saint Jean-Baptiste lui vient du prophète Isaïe, « Redresser le chemin du Seigneur ». Et le précurseur continue, en allégorie, par expliquer justement les obstacles à la venue du Sauveur, le vallonnement du chemin, sa sinuosité et les pierres qui le parsèment. Lorsque nous transposons ces images dans notre vie chrétienne et donc à la venue du Sauveur dans notre âme, nous considérons d'abord ces obstacles comme extérieurs. Ainsi, toutes nos mauvaises habitudes, nos péchés répétés semblent correspondre à ces pierres semées sur la route du Christ. Mais si cette logique va justifier nos résolutions de l'Avent contre le péché, cela n'explique pas pourquoi saint Jean-Baptiste parle de la tortuosité du chemin et de son vallonnement. On comprend très bien les pierres, mais pourquoi un chemin si tortueux? En fait, la pierre est posée sur un chemin qui est déjà sinueux, qui est déjà difficile d'accès. La préparation de l'Avent ne peut donc se limiter à une simple correction de nos aspérités extérieures. Ce ne peut pas être une préparation extérieure sur nos défauts. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que l'homme va devoir corriger pour attendre le Sauveur. Il va falloir redresser quelque chose d'intérieur comme si quelque chose s'élevait contre la venue du Christ dans notre âme. Pour faire un pas de plus et entrevoir ce lien avec l'Épître, il nous faut contempler la pauvreté présente lors de la nativité. La pauvreté matérielle est assez éloquente, que ce soit par le lieu choisi par notre Seigneur ou par les acteurs de la nativité. Mais la pauvreté spirituelle est elle aussi manifeste. C'est cette pauvreté spirituelle qui dispose les acteurs de la nativité à accueillir le Christ. Pour les bergers, la chose est très simple. Il y a chez eux une sorte d'absence virginale d'inquiétude. En effet, ignorant toute forme de matérialisme, ils n'ont rien, ils sont réellement pauvres et donc par là même totalement disponibles à accueillir le Sauveur. Mais cette absence virginale d'inquiétude, on la retrouve surtout chez la Vierge Marie. Depuis l'Annonciation, Marie vit en permanence abandonnée à la volonté divine. En effet, elle ne maîtrise plus rien. Ne pouvant rien décider de l'avenir, on peut dire de Marie qu'elle était dans un abîme d'attente. Et Marie va laisser éclater cette pauvreté spirituelle, cet ultime dépouillement, dans un acte sublime. Elle décide le soir de Noël de partager son bien le plus précieux. Elle nous donne son Fils. C'est-à-dire qu'elle renonce en partie à une relation d'intimité exclusive avec l'enfant Jésus pour nous le donner. Le mystère de Noël nous montre que la pauvreté est affaire de dépouillement, mais que ce dépouillement n'est pas simplement matériel. Il faut que l'être humain, le chrétien, se dépouille d'un bien beaucoup plus précieux, beaucoup plus profond, pour recevoir le Christ, ce dont tous les acteurs du mystère de la nativité sont dépouillés, c'est de leur propre jugement. Si l'Église aujourd'hui choisit d'associer ces deux textes, c'est que le jugement de l'homme peut devenir l'obstacle ultime à la venue du Christ dans son âme. Alors évidemment, il ne faut pas ici restreindre le sens du mot « jugement » à ce travers mesquin que nous avons tous qui consiste à avoir un regard quelque peu négatif sur ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas simplement du jugement téméraire. Non, ce que saint Paul désigne, c'est bien la faculté de l'homme de juger sa réflexion, son intelligence. Pourquoi ? Parce que nos jugements reposent sur nos certitudes. Alors l'Église ne vous invite pas aujourd'hui à la folie, à la déraison, elle ne nous demande pas de renoncer à notre intelligence, mais elle nous invite, dans cet ultime conseil, à corriger le fondement de nos certitudes. Plutôt que de faire reposer nos certitudes uniquement sur notre propre jugement, sur nous-mêmes, elle nous invite à les fonder sur Dieu. Et en cela, les acteurs de la nativité nous montrent un exemple éloquent. En effet, les bergers n'auraient probablement jamais été adorer l'enfant Jésus s'ils avaient gardé un simple regard humain, purement naturel, sur ce qui se passait à la crèche. La Vierge Marie, si elle avait suivi un jugement purement humain, aurait peut-être renoncé bien des fois à la mission qui était la sienne, et il est fort probable qu'humainement, elle ait même détourné l'enfant Jésus de la mission qui était la sienne. Saint Joseph, eu égard à ce qui se passait sous ses yeux, s'il l'avait jugé humainement, aurait probablement renoncé également. Et les rois mages se sont lancés dans une quête qui, humainement, est absolument incompréhensible. Qui d'entre vous prendrait demain sa voiture pour traverser un pays parce qu'il a vu une étoile ? Ces acteurs de la nativité ont su recevoir le Christ, non pas parce qu'ils avaient renoncé à leur intelligence, à leur raison, mais parce qu'ils avaient fondé leur certitude et leur confiance en Dieu. Plutôt que de faire reposer leurs actes sur leur propre intelligence, ils ont placé leur certitude en Dieu. Tel est l'ultime conseil que nous donne l'Église à l'approche de Noël. Elle nous invite à lever l'obstacle radical, mais l'obstacle ultime qui en l'homme peut se dresser contre l'action de Dieu. C'est sa propre intelligence, sa propre certitude qui va refuser en fait de faire confiance à Dieu. Et bien à l'instar des mages qui se sont dépouillés, qui se sont abandonnés à Dieu, pour suivre cette étoile, nous devons nous aussi nous abandonner dans une confiance à Dieu. Cela est extrêmement important à l'approche de Noël parce que le mystère que nous allons célébrer n'est pas si simple à accepter et accueillir pleinement. La venue du Christ dans notre âme est conditionnée à la confiance que nous avons en lui. Vous recevrez dans la mesure de ce que vous attendez. Si vous n'attendez rien de Noël, eh bien vous recevrez ce que vous attendiez. Il nous faut donc sacrifier nos propres certitudes, nous dépouiller de notre précieuse intelligence pour accueillir le mystère de Noël, parce que les lumières qui vont nous permettre de mieux l'accueillir, de mieux le comprendre et de mieux l'intégrer, ces lumières viennent de Dieu et demandent justement une certaine abnégation de notre intelligence. Il faut savoir accueillir ces lumières. L'intelligence de l'homme peut se dresser contre Dieu de manière extérieure, comme le font les athées, mais elle peut se dresser de manière intérieure parce que l'homme préférera toujours un mensonge venu de lui-même à 10 vérités qui viennent de Dieu. Il faut donc accepter la vérité qui vient de Dieu, soumettre notre intelligence en accueillant généreusement cette vérité. Et je donnerai le mot de la fin à Éloi Leclerc qui justement disait que la profondeur d'un homme était dans sa puissance d'accueil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.